La chronique de Philippe Jorgensen.
Les auditeurs les plus fidèles de cette chronique se souviendront peut-être que j'avais appelé leur attention l'automne dernier sur le fait que les milliards que chacun s'inquiétait de voir engloutis dans le sauvetage des banques étaient loin d'être investis à fonds perdus. L'espoir de récupérer la mise est aujourd'hui en train de se concrétiser. En effet, on peut voir un peu partout les banques secourues par la puissance publique fin 2008, alors que leur solvabilité paraissait menacée, se bousculer aujourd'hui pour rembourser par anticipation ces précieux concours. En France, 4 des 5 grandes banques qui avaient été soutenues se sont désengagées récemment. Le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel ont remboursé 3 milliards et 1 milliard 2 d'euros respectivement de titres subordonnés. La BNP Paribas a racheté 5,1 milliards d'euros d'actions de préférence et la Société Générale pour 3,4 milliards de titres subordonnés et actions de préférence. Seule la BPCE, issue du rapprochement des banques populaires et des caisses d'épargne, n'a entrepris de rembourser à ce jour qu'une faible part, un dixième environ, de l'aide en fonds propres qu'elle avait reçue. Un an après ces interventions, la Société de prise de participation de l'État a ainsi déjà récupéré les deux tiers de l'aide en fonds propres initialement accordée aux banques françaises, plus de 13 milliards sur un peu moins de 20 au total. Et cette opération a rapporté à l'État plus de 700 millions d'euros d'intérêts. On voit que l'argent des contribuables, loin d'être perdu, a finalement fructifié. De même, il y a de bonnes chances, compte tenu de l'amélioration des perspectives économiques en général et de la situation du secteur bancaire en particulier, sauf en Grande-Bretagne, comme on vient de le voir, que les prêts et garanties apportés par l'autre système d'intervention publique, la Société de refinancement des activités des établissements de crédit, la SFEF, soient finalement intégralement remboursés. Ces concours, qui ont atteint 77 milliards d'euros au total, ont déjà rapporté 1,4 milliard d'euros d'intérêts, s'ajoutant aux 700 millions précités. Ce phénomène de désendettement rapide auprès de la puissance publique n'est pas propre à la France. Aux Pays-Bas, par exemple, le groupe ING va lancer sur les marchés une augmentation de capital de 7,5 milliards d'euros qui lui permettra de rembourser la moitié de sa dette envers l'État. Fortis aussi a commencé à rembourser les aides reçues. Retardé sérieusement en Grande-Bretagne du fait des difficultés persistantes de Royal Bank of Scotland, de Northern Rock et de Lloyds, qui ont déjà reçu 65 milliards de livres sterling d'aides directes et des dizaines de milliards de garanties, le processus de désengagement des concours publics s'amorce en Allemagne, où l'État a apporté plus de 155 milliards d'euros aux banques, en majorité sous forme de garanties, mais à hauteur de 22 milliards d'euros en fonds propres. Par exemple, la Commerzbank et la Bayerische Landesbank rendent les garanties apportées par la SOFIN. Le gouvernement suisse, de son côté, s'est publiquement réjoui d'avoir obtenu près d'un milliard d'euros d'intérêts en contrepartie de 5,6 milliards qu'il avait avancés à l'Union des banques suisses, soit un retour sur investissement d'environ 30%. Traversons l'Atlantique, les banques américaines les mieux loties, celles qui ont passé avec succès les fameuses stress tests montrant leur résistance à des scénarios extrêmes de crise, s'empressent de leur côté de rembourser les aides publiques obtenues. C'est ce qu'ont fait Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley et US Bank Corp, tandis que Bank of America, qui a besoin de non moins de 34 milliards de dollars de recapitalisation, Citigroup et d'autres restent lourdement endettés à l'égard de l'État fédéral. Mais la remontée du cours en bourse de Citigroup a déjà permis à Washington d'enregistrer une plus-value potentielle de 11 milliards de dollars sur la participation qu'il a prise au capital de cette banque. Et le cumul des dividendes et intérêts reçus par l'État fédéral en contrepartie de ces interventions massives atteindrait déjà 30 milliards de dollars. Est-ce à dire que toutes les aides consenties seront intégralement récupérées? Sans doute oui en France, sans doute non aux États-Unis. Il est très probable, par exemple, qu'une bonne partie des 180 milliards de dollars que le gouvernement américain a dû consentir aux frais des contribuables pour le sauvetage d'AIG ne pourront pas être récupérés, même si cette grande multinationale de la finance a commencé à se désendetter en cédant des actifs. En effet, une bonne partie des soutiens obtenus correspondent à des pertes enregistrées du fait de couvertures de taux d'intérêt ou de risques de crédit, les fameux CDS, accordés notamment à des banques pour des montants tout à fait déraisonnables et sans possibilité réelle de récupération. Mais il s'agit là d'activités qui sortent tant du domaine de l'assurance, activité d'origine d'AIG, que de celui de la banque fût-elle d'investissement. Or, ce cas limite On peut penser que même aux États-Unis, pays d'origine pourtant de la crise des subprimes, l'essentiel des concours publics sera récupéré. Est-ce assez ? Certains se demandent si les États, sans qui certaines banques n'auraient pas survécu, n'auraient pas dû voir leur rôle de sauveteur mieux rémunéré. Cela aurait été le cas si leur concours avait pris, par exemple, la forme de souscription d'actions ordinaires plutôt que de prêts subordonnés ou d'actions de préférence. Le débat à ce sujet a été vif en France, entre les tenants de cette thèse et le gouvernement qui a estimé, lui, ne pas devoir courir les mêmes risques que ceux d'un spéculateur en bourse et souhaitait de toute façon éviter de procéder à une nationalisation indirecte du secteur bancaire. Quoi qu'il en soit, il paraît plus intéressant aujourd'hui de se pencher sur un autre problème connexe qui est celui des raisons de cette soudaine hâte des banquiers à rembourser les soutiens publics qu'ils avaient à l'époque réclamés à cor et à cri. En effet, diminuer ses capitaux par de tels remboursements, alors que la crise est loin d'être complètement terminée, et de plus que le resserrement de la régulation financière va faire monter les niveaux de fonds propres exigés en face des risques pris, peut paraître paradoxal. Il y a d'abord une question d'image. Le fait pour un grand établissement de se montrer capable de rembourser rapidement la dette contractée auprès de l'État est un signe tangible d'amélioration de sa situation. L'opération ne peut, si elle est correctement financée, c'est-à-dire en levant du capital ou des quasi-fonds propres sur les marchés sans garantie de l'État, l'opération donc ne peut qu'être bien perçue par les marchés et améliorer à terme tant leur position commerciale face à leurs concurrents que leur notation par les agences de rating et leur potentiel d'attraction. Et il est vrai qu'en France, au moins, les établissements financiers qui remboursent les aides ont dans tous les cas levé préalablement sur les marchés financiers des sommes égales ou supérieures au montant qu'ils remboursent. Un deuxième facteur, sans doute plus déterminant, est le désir des banquiers de se débarrasser d'une tutelle étatique ressentie comme pesante, même si la puissance publique s'est en principe abstenue dans la plupart des cas d'interférer dans leur gestion. Abstention incomplète toutefois. En France, comme aux États-Unis et ailleurs, les États tendent à considérer que la contrepartie de leur apport est une poursuite du financement des entreprises par les banques, alors qu'elles auraient naturellement tendance, en période de crise, à restreindre leurs prêts. C'est ainsi qu'en France, le secteur bancaire s'est engagé à maintenir une progression d'au moins 3% de ses concours à l'économie. Même si la vérification d'un tel engagement est bien difficile concrètement, on pourrait dire qu'elle relève plutôt de l'incantation, on peut comprendre que les dirigeants se préoccupent de cette intervention indirecte dans leurs décisions de financement, c'est-à-dire dans le cœur de leur métier. Mais de façon plus précise encore, les établissements financiers s'inquiètent de la volonté des États, poussés par l'opinion publique, de brider leur politique de rémunération. On sait que les chefs d'État et de gouvernement des principaux pays du monde, le G20, ont, à Londres en avril dernier, puis à Pittsburgh en octobre, exigé qu'un code de conduite précis soit appliqué en matière de rémunération des dirigeants et des traders, des opérateurs de marché. La part du salaire fixe doit être accrue. Le paiement de la rémunération variable, les fameux bonus, doit être étalé et se faire en partie en action. Cette rémunération doit tenir compte des risques pris et de la performance globale dans l'entreprise et plus seulement de la performance individuelle. Elle doit être remise en cause en cas de chute de cette performance par le système dit du clawback. Allant plus loin, les autorités ont même entrepris d'intervenir directement dans la fixation des salaires des dirigeants. C'est ainsi qu'aux États-Unis, l'administration Obama a désigné un tsar des rémunérations, c'est l'expression admise, Ken Feinberg. Celui-ci a décidé de réduire de moitié les salaires et autres primes des dirigeants de 7 sociétés renflouées par l'État, AIG, Bank of America, Citigroup et 4 banques de financement de crédit automobile. Ces 7 acteurs ont reçu au total plus de 300 milliards de dollars d'aide publique et les parlementaires américains exigent des contreparties, logiquement en termes de rémunération. Les limitations décidées concernent pour le moment les 25 plus gros salaires de ces 7 sociétés, ainsi que les avantages en nature tels que limousine, avion ou club de golf, mais s'étendront l'an prochain aux 100 premiers salaires de ces établissements financiers. Inutile de dire que la potion est fort désagréable pour les dirigeants de ces banques, non seulement sur le plan personnel, mais aussi parce qu'elles considèrent que ces limitations les affaibliraient face à la concurrence d'établissements qui, n'étant pas soumis aux mêmes limites, pourront débaucher leurs meilleurs éléments. Le meilleur moyen d'échapper à cette tutelle sur les rémunérations est, bien sûr, de rembourser les aides perçues. Aux États-Unis, il s'agit du programme TARP, Troubled Assets Relief Program. Le lien entre les deux sujets est patent. Le patron, maintenant déchu de la Bank of America, Ken Lewis, le disait franchement lors d'une interview en juin dernier. À la question « Quelle serait votre première décision après avoir remboursé le Trésor ?», il répondait « Cela permettrait de revoir notre système de rémunération et de rétablir les bonus. » C'est clair. Or, celles des banques qui ont bien résisté à la crise ont de quoi se montrer larges. Selon le Wall Street Journal du 14 octobre dernier, les 23 banques et fonds d'investissement de Wall Street verseront cette année 140 milliards de dollars de rémunération, somme équivalente à elle seule au produit national total de pays comme le Nigeria ou l'Algérie, pays pétrolier pourtant. Si les banques européennes, et notamment françaises, se montrent pour le moment plus modérées dans leurs intentions, la pression de la concurrence commence déjà à bousculer ces bonnes dispositions. Voilà pourquoi on peut penser qu'il va être bien difficile à l'avenir d'empêcher les dérapages que l'on a connus dans le passé sur les rémunérations bancaires de se renouveler. On peut y voir un risque d'amorce d'une nouvelle crise. Et c'est bien pourquoi tant la Banque centrale américaine, la Fed, que le Fonds monétaire international mettent fermement en garde contre un désengagement trop rapide de l'État, source pour eux d'un relâchement des règles. Nous veillerons à ce que les bénéfices des banques viennent renforcer en priorité le capital, vient de déclarer le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, tandis que la Fed rappelle aux établissements de crédit américains, elle le fait avec d'autant plus d'insistance qu'elle craint de ne pas être suivie, que les règles de bonne conduite du G20 devraient s'appliquer même à ceux qui se sont désendettés auprès de Washington. Mais on peut aussi conclure de cette situation, c'est l'autre face de la même médaille, que l'incitation à rembourser les concours publics obtenus par le secteur bancaire est et va rester très forte, ce qui est somme toute une très bonne nouvelle pour le contribuable.